181. Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le pit stop avec Gravel, 7h45. Le point de max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour peut faire ça.
Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Marceau le soir. Le soir.
Quel plaisir de la recevoir ce soir. Son nom, c'est Elisabeth Abatiello. Si vous arrivez d'une autre planète, vous n'avez jamais entendu parler d'elle, mais si vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux, vous l'avez certainement vu passer, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Elle est extrêmement présente. Qui est-elle, Elisabeth Abatiello? C'est la dame qui est copropriétaire des pizzas Salvatore, de la franchise des bannières Free Pizza Salvatore, je pense qu'on peut dire ça comme ça. J'ai le plaisir de te saluer. Salut Elisabeth!
Bonjour Yannick, ça va bien?
Ben oui, merci d'être là, c'est le fun. Ça fait des années que tu es sur ma liste. La première saison de Mars au soir, j'avais mis ton nom parce que je te trouvais extrêmement dynamique sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, hey, quel bel exemple de femme d'affaires qui se met de l'avant, qui n'a pas peur de ce que les gens peuvent penser d'elle. Et il s'en est passé des choses depuis deux ans et demi où je t'ai mis sur la liste. Fait qu'on a plein de sujets à parler ce soir. Merci beaucoup de participer à l'aventure de Mars au soir. Elisabeth Abatiello est tombée dans la restauration très jeune. Ton père qui était propriétaire de l'entreprise?
Oui, exact. Mais avant, mon père, c'était mon grand-père. Donc, mes trois frères, ma sœur et moi, on représente la troisième génération de Pizza Salvatore. Donc, on a littéralement été élevés dans les cuisines des restaurants. On a vu nos grands-parents, nos parents se consacrer à l'entreprise familiale. Donc, on a toujours baigné là, dans l'univers de la restauration des pizzerias.
Et ton grand-père, lui, a commencé cette entreprise-là en quelle année précisément?
En 1964, donc mon grand-père, de son prénom Salvatore, est un immigrant italien après la Deuxième Guerre mondiale. Là, il a perdu ses parents, malheureusement. Il est déménagé au Canada avec l'un de ses frères. Il est arrivé par bateau, comme beaucoup d'immigrants, là, après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de chamboulements dans le monde, évidemment, au niveau démographique. Donc, il est arrivé à Montréal. Il a travaillé un peu sur la construction. T'sais, il ne parlait pas un mot français, pas un mot anglais. Fait que ça a été très difficile pour lui et je ne sais pas comment il a fait, mais il est tombé dans l'œil de ma grand-mère, une beauceronne d'origine qui venait d'une grande famille. Puis dans ce temps-là, tu sais, l'emploi, c'était pas comme aujourd'hui. Là. Donc, elle venait de Saint-Odilon-de-Cranbourne, un petit village en Beauce, un village très sympathique, mais elle a été déménagée à Montréal pour trouver de l'emploi avec l'une de ses sœurs. Donc, elle travaillait comme couturière dans la métropole montréalaise et elle a rencontré mon grand-père. Je ne sais pas trop comment ils se sont compris au début parce que même moi, mon grand-père, je ne l'ai pas connu avec un très bon français. Puis ensemble, c'est ça, ils ont habité un petit peu à Montréal. Ils ont eu 7 enfants. Finalement, ils sont déménagés un peu plus près de la famille de ma grand-mère à Saint-Georges-de-Beauce pour ouvrir le premier Pizza Salvatore, donc leur restaurant. Ils avaient acheté un immeuble. Il y avait le restaurant au rez-de-chaussée, au deuxième étage. Ils élevaient leurs 7 enfants qui étaient au travers des clients, des brassage de sauce à pizza, la fabrication de la pâte à pizza. Donc, tout le monde a vraiment baigné là-dedans. Puis c'est mon père, à l'âge adulte, que lui a racheté le restaurant familial et il en a fait un réseau de franchises. Et nous, les 5 frères et sœurs, on a racheté nos parents en 2018.
OK. Mais au départ, ta grand-mère et ton grand-père, bon, parlaient pas la même langue. Mais j'imagine qu'au fur et à mesure, ils ont réussi à se comprendre parce qu'ils ont eu des enfants.
C'est ça.
Est-ce que ta grand-mère avait des affinités avec la cuisine? Est-ce qu'elle était une femme d'affaires à l'époque? C'est qui a eu l'idée de partir le premier restaurant Salvatore?
C'est une bonne question. Comment ça s'est passé? C'était un party du jour de l'an dans une maison à Saint-Édouard-de-Cranbourne, la maison familiale là, de mes arrière-grands-parents.
Ouais.
Et mon grand-père avait fait un mets typiquement italien de la pizza. Puis si on recule dans les années, là, fin des années 50, début des années 60, la pizza, c'était pas du tout connu au Québec. Là. C'est comme les sushis ou le tartare il y a 15-20 ans. Le monde, il consommait pas de ça. Il savait pas c'était quoi. Puis, il trouvait ça très, très bizarre de voir mon grand-père écraser des tomates sur une pâte avec du fromage. Je pensais qu'il faisait une tarte à la tomate. Puis, finalement, comme pas mal tout le monde qui goûte à la pizza, bien, ils ont beaucoup aimé ça. Puis, c'est eux qui les ont poussés à ouvrir un restaurant. Donc, mon grand-père avait jamais eu l'intention d'ouvrir un restaurant, mais lorsqu'il a cuisiné pour sa belle-famille à un party du jour de l'an, bien, c'est vraiment la belle-famille qui l'a poussé à ouvrir un restaurant avec, évidemment, ma grand-mère à ses côtés.
Ouais.
Donc, ma grand-mère s'occupait beaucoup du service en salle à manger. Mon grand-père était dans la cuisine. Puis il a développé un peu son français. Mais tu sais, il était très comique, mais il parlait baragouinait avec des mots en italien, en anglais, en français. Ça donnait un dialecte qui était fort charmant.
Et qui s'occupait des opérations? Est-ce que c'était plus ta grand-mère qui s'occupait des opérations? Tu me dis que la grand-mère faisait la salle à manger, le grand-père faisait la cuisine. Il devait bien avoir quelqu'un qui comptabilisait tout ça?
Oui, ben je pense que ma grand-mère, c'est ça,
Ouais.
ma grand-mère faisait ça. Puis les commandes de nourriture dans le temps, là, c'était pas aussi structuré qu'actuellement avec des distributeurs alimentaires, tout ça. Donc, ils s'approvisionnaient, ils allaient à Montréal chercher du pepperoni, des viandes italiennes. Tu sais, fait qu'ils faisaient beaucoup de routes, tout ça. C'était vraiment beaucoup de gestion pour avoir tous les ingrédients au même endroit, versus aujourd'hui que les fournisseurs livrent directement dans le restaurant plusieurs fois par semaine. Donc, mais vraiment, ils ont roulé leur poste comme ça. Ils ont eu 7 enfants.
Ouais.
Puis tout le monde a mis la main à la pâte, littéralement et figurativement.
Donc, l'aventure des pizzas Salvatore, ça a débuté en Beauce,
Ouais.
dans un restaurant, et au-dessus, bon, il y avait la famille qui élevait les enfants et tout ça. Ton père faisait partie, des enfants. Il a décidé de racheter les restaurants. Ça ne l'a pas au départ, ça y a pas fait peur, parce que un grand-père puis une grand-mère ou un père puis une mère qui travaillent fort des restaurants, c'est 7 jours sur 7, c'est des heures à n'en plus finir. Je comprends que les Italiens ont cette réputation-là, c'est des travailleurs qui sont infatigables, là. Mais en bout de
Ouais.
ligne, quand on est un enfant, là, on se dit un peu, là, moi, je veux-tu passer ma vie 7 jours sur 7 dans un restaurant? Ton père, est-ce qu'il pensait à ça à l'époque?
C'est une bonne question. Je pense que quand tu es élevé dans cette culture-là, que la vie, c'est le travail, en fin de compte, tu poses pas tellement de questions. Puis tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet dans les maisons. Fait qu'à quel point le monde se comparait sur leur style de vie aussi, c'était peut-être différent d'aujourd'hui. Mais mon père, rapidement, s'est entouré là, vraiment de, t'sais, des gestionnaires, des membres de l'équipe solide, et c'est comme ça qu'il a parti son réseau de franchises. Donc, le restaurant de Saint-Georges-de-Beauce, après ça, il a ouvert un restaurant à Thetford Mines avec un membre de l'équipe qu'il y avait à Saint-Georges qui venait de Thetford. Donc, ils ont ouvert à Thetford, ils ont ouvert au Saguenay, ils ont ouvert à Trois-Rivières. Donc, mon père est vraiment devenu plutôt franchiseur que restaurateur unique. Donc là, ça vient avec une certaine structure, une charge de travail qui est très grande. Mais là, tu gères une équipe dans un bureau qui travaille du lundi au vendredi. Donc ça l'a modifié beaucoup. Mais mon père, comme nous, les 5 enfants, on a beaucoup travaillé dans les opérations. Puis même dans les opérations ou au bureau, on sait que la clé d'une entreprise, c'est les membres de l'équipe. Nous, en tant que propriétaires, on peut pas tout faire, tout ça. Donc, c'est super important de bien s'entourer, puis de savoir que, OK, même si je ne suis pas sur le plancher, bien, les clients vont être bien servis, les produits vont être beaux. Donc, c'est beaucoup de formation, tout ça. Puis, tu sais, mes grands-parents l'ont compris aussi, là, ils ont réussi à avoir quand même une vie, avoir du plaisir au travers, non seulement en travaillant, mais avoir des journées de congé à passer avec la famille, tout ça.
As-tu fait partie de ton thinking à toi? Bon, t'es mère de famille, de ce que je comprends. Là, la restauration, c'est des heures et des heures à n'en plus finir. Bon, vous occupez votre famille des opérations, mais est-ce que tu y as pensé en disant, tabarouette, je trouve ça intéressant, cette entreprise-là, c'est une entreprise familiale, la clientèle, la base est bien établie et tout ça. Mais est-ce que tu t'es dit, hey, moi, je veux une qualité de vie aussi?
Honnêtement, moi, j'ai pas vu venir ça. J'ai toujours travaillé dans les restaurants depuis que je suis jeune. Et quand j'ai commencé à travailler au centre de service Salvatore, dans le temps, il y avait 14 restaurants. Ben c'était lors d'un stage à l'école au Cégep, fallait faire un stage en entreprise. Donc c'était la première fois que je travaillais dans un bureau avec mon père aussi. Puis moi, je m'étais réinscrite à l'école, puis mais pour mes parents, c'était vraiment important de nous inculquer une certaine éducation financière. Donc, on payait 100 % de nos dépenses, incluant l'école, les livres. Tu sais, à 17, 18 ans au cégep, c'est quand même des grosses dépenses pour nous. Fait que, moi, j'avais payé ma session, payé mes livres, tout ça. Puis là, mon père, il me voit le 28 août, il dit, tu t'en vas où? Je m'en vais à l'école, l'école recommence. Il dit, ben voyons, tu restes pas avec nous au bureau. Fait que, tu sais, ça s'est comme fait comme ça. J'y ai pas trop pensé. T'sais, mon père ne m'a pas forcé dans l'entreprise familiale, là, on s'entend bien. Là, c'était vraiment un choix. C'est juste, ça m'a ouvert les yeux plus rapidement que j'aurais pensé à prendre une décision sur qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Mais tu sais, mon père avait quand même une belle qualité de vie, puis c'est quelque chose que j'admire non seulement de mon père, mais de plusieurs personnes en affaires. C'est pas, moi, c'est pas le chiffre d'affaires qui m'intéresse ou le nombre de clients par semaine, mais c'est dire, hey, cette personne-là, là, elle gère quand même une belle entreprise, puis est capable de venir souper chaque soir avec sa famille, est capable de prendre des vacances quand elle veut. Elle n'est pas menée par son agenda, mais elle mène son agenda. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aspiré. Puis j'ai beaucoup d'inspiration autour de moi de voir des personnes en affaires qui ont bien réussi, mais qui ont aussi réussi leur vie personnelle. Donc, pour moi, ça a toujours été au cœur de mes priorités, de nous structurer pour être capable. Puis oui, il y a des bouts qui sont crunchy, l'entreprise est en grande croissance, mais le gain de se structurer pour quand même passer du temps de qualité avec nos proches.
Ton père est un homme d'affaires. Ton père, on le connaît à travers les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est la même personne, mais il semble être un homme d'affaires assez complexe. Tu négocies comment avec ton père pour ton salaire, ton premier salaire, là,
Oh!
tu...
Ça n'a pas été compliqué, c'est 20 ans, c'est 20 000. C'est ça. Mais tu sais, on recule dans le temps, là, peut-être en 2011, là, je me rappelle plus. Fait que c'était comme ça, mais mes parents ont toujours été. C'était très important pour eux de nous inculquer la valeur de l'argent, non seulement quand on travaillait pas directement pour eux, lorsqu'on travaillait dans les restaurants, mais on était l'employé d'un franchisé et non l'employé du franchiseur. Donc, c'était très important de, OK, ben là, vous avez un revenu, ben vous allez payer 50 % de vos dépenses. Donc, tu sais, je reconnais que je viens d'une famille qui est aisée. J'en suis très chanceuse. C'est de la chance. Je connais pas personne qui a payé ses broches à 14 ans dans sa bouche. Et moi, j'étais la seule de mes amis qui payait ses broches. Puis, tout ça, fait que, tu sais, ils nous ont inculqué ça très rapidement. Puis, quand on a commencé à travailler, ben les salaires, c'était les salaires. Je vais dire du marché. Mon père dit que c'était du marché, mais je pense que c'était en fait sous le marché, si je peux me permettre. Donc, c'est ça. Mais après ça a toujours été la valeur du marché. Et encore à ce jour, avec mes frères et sœurs, ben c'est au marché que c'est quoi les salaires. Fait
Ouais.
que, on se fie sur le marché.
Est-ce que c'est complexe de faire des affaires en famille?
Ça peut être complexe, mais je pense que c'est une grande, grande chance. Puis c'est quelque chose de très, très positif parce que la famille, on a grandi avec nos frères et sœurs, on les connaît quasi aussi bien qu'on se connaît nous-mêmes. Donc, on sait les limites sont où, on connaît les personnalités de tous et chacun, comment ils vont réagir à certaines situations, comment s'adresser à eux aussi. Donc, je pense que c'est un gros avantage de vraiment savoir à quoi s'attendre. Par contre, pour notre père, c'était très important au début lorsqu'on est devenu actionnaire. Au début, on est devenu actionnaire avec notre père en 2015 et quelques années plus tard, en 2018, là, on a racheté 100 % de ses parties. Mais pour lui, c'était très important que juridiquement, on parte sur une base qui était très solide. Donc, ça a été évidemment des conventions d'actionnaires en bonne et due forme. Donc, c'est vraiment écrit, si quelqu'un passe à dérape, qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est des conventions d'actionnaires typiques là, de plein de situations, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'était très, très important, mais à ce jour, on n'a jamais eu besoin de sortir la convention d'actionnaire pour vérifier quoi que ce soit. On se connaît, puis surtout, on est tous alignés sur les mêmes objectifs. Donc ça, je pense que c'est très important et on met tous nos efforts et tout notre temps sur les entreprises et non sur des projets personnels qu'on pourrait avoir à côté. Donc, tous les membres de la famille mettent environ le même nombre d'heures, le même nombre d'énergie, le même nombre de temps, les mêmes ressources financières aussi dans l'entreprise. Donc, comme ça, il n'y a pas de non-dits qui peuvent être malaisants ou qui peuvent apporter des situations un peu plus délicates. Et c'est vraiment important pour nous d'être transparents. Puis, qu'est-ce qu'on se dit avant chaque réunion? Quelque chose qui est écrit à l'ordre du jour, c'est le leadership, c'est d'être capable de se dire les vraies affaires, mais avec des gants blancs. Fait que, tu sais, il y a une manière de s'adresser aux autres. Et on s'est toujours dit, on va pas se parler comme des frères et sœurs, on va se parler comme des membres de l'équipe. Donc, tu sais, des fois, entre frères et sœurs, tu peux dire, voyons, qu'est-ce que tu fais là, ça marche pas. Mais un membre de l'équipe, tu dirais pas ça. Tu dirais, hey, il y a telle situation, qui est arrivée telle chose, je pense que ça serait mieux de faire ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est conscient. On a beaucoup d'amis, des familles en affaires, puis il y a des exemples de toutes parts, des entreprises que ça va bien en famille, puis des entreprises que ça va moins bien. Donc, on essaye de garder notre recette parce qu'on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble, puis je pense que ça donne un bon résultat.
Puis, quand ton père a vendu, tu me dis, c'est en 2018 où vous avez acheté?
Ouais,
OK,
ouais.
2018. Ton père avait quel âge en 2018?
Et mon Dieu, il est né en 61. Je sais pas s'il serait
61.
content
Fait que,
que je dise
mettons,
ça.
de 60 jusqu'à 100, ça fait 40 ans. On ajoute un 25 ans. On ajoute un 18 ans. Ça veut dire qu'il y avait 58?
Ça se pourrait bien, mais mon père était aussi, propriétaire immobilier au fil du temps. Là, il était propriétaire de la majorité des immeubles dans lesquels il y avait des salvatoreries.
Mais admettons, quand il vous a vendu, il avait 60 ans. Tu dis, papa, t'as 60 ans, c'est 60 000?
Non, ça a été un peu plus compliqué que ça. Ah, puis l'impôt n'aurait pas accepté ça, je pense. Fait que c'est vraiment la juste valeur marchande établie par des évaluateurs agréés. Puis oui, c'est ça.
Étais-tu à l'aise de vous vendre l'entreprise au prix que ça valait à l'époque?
Ah, très à l'aise, à l'aise. Et puis comment ça s'est passé aussi? Ça a été une belle situation parce qu'il y a une multinationale, Yum Brands, qui détient notamment Pizza Hut, qui est venue cogner à notre porte. Ça a peut-être commencé en 2017-2016. Et eux grandissent beaucoup par acquisition. Donc, ils achètent des chaînes, comme nous, dans le temps, 14 restaurants, et ils les virent en Pizza Hut et ils gardent le franchiseur comme ça devient un franchisé opérateur. Donc, eux, leur but, c'était d'acheter les 14 Pizza Salvatore et de les mettre en Pizza Hut. Donc, on a quand même fait le processus avec eux. C'est une grande entreprise, une multinationale avec une structure incroyable qui a des bons résultats dans beaucoup de marchés. Donc, c'était vraiment formateur pour nous de voir qu'est-ce que c'est, ces grandes entreprises-là, comment ça fonctionne. Et ils ont mis un prix de vente sur la table. Donc, pour nous, ça a seté le ton. Puis le prix de vente qu'ils ont proposé, notre père s'est retourné avec nous. Ils ont dit, est-ce que je vends à Pizza Hut ou je vends à vous? Donc, ça a été comme ça. Mais ceci étant dit, mon père, après ça, il est pas, il continue toujours à travailler puis toujours à nos côtés. Mais il est plus dans la partie immobilier de l'entreprise.
Puis est-ce qu'il respecte le fait que c'est vous maintenant les propriétaires ou de temps en temps, il essaie de pousser ses idées?
Il essaie toujours de pousser ses idées, mais je pense qu'on est super chanceux d'avoir notre père comme mentor, qui a fait carrière aussi dans la restauration. Puis c'est sûr que les pratiques sont plus les mêmes, les méthodes, c'est juste le marketing est tellement différent, mais ça reste que la culture, la restauration, la culture québécoise versus la consommation, les mœurs sont à peu près les mêmes. Donc, on a vraiment une grande chance d'avoir accès à son savoir. Et souvent, il nous le dit sans qu'on le demande, il nous donne l'information sans qu'on lui demande. Mais c'est ça, il est plus dans les décisions de l'entreprise, mais il trouve toujours un chemin pour venir à nos réunions où il s'arrange pour savoir c'est quand, puis il donne son input, qui est majoritairement apprécié, mais c'est ça. Il y a une manière très colorée à lui de nous faire savoir ses opinions.
Ben oui, effectivement. Puis tu sais, les temps ont changé aussi. Les employés, les nouvelles générations, tu ne peux plus les traiter comme tu les traitais dans les années 80, les années 90, début 2000. Il faut faire peut-être un peu plus attention à la façon dont on parle.
Oui, mais mon père est un homme très strict, si je peux dire, qui demande beaucoup de rigueur, mais très, très apprécié des membres de l'équipe, et ça a toujours été ça. Des fois, sur les réseaux sociaux, on voit comment il parle à ses enfants. Nous, on a été élevés un peu avec un pace que mon père, il disait tout le temps, on a une vitesse, puis c'est le high. Là, je pense qu'il parle les autos manuelles dans le temps, high, low, puis moi, je suis pas connue ça trop. Mais on a une vitesse, puis c'est le high. Mais avec les membres de l'équipe, mon père a toujours très été apprécié, des partenaires aussi. Mon père est un fin négociateur, mais à chaque fois que je croise quelqu'un, tout le monde me demande comment va ton père, tout ça, puis mon père est quand même très apprécié, mais il y a un style de leadership qui demande beaucoup de rigueur, c'est vrai.
Oui. Il y a ton père, il y a toi, il y a tes frères. Pourquoi je vous connais? C'est parce que je vous ai vu passer au travers les réseaux sociaux. Est-ce que ça a été une décision pour tout le monde de vous présenter à nu comme ça sur les réseaux sociaux, parfois dans votre quotidien, parfois dans les opérations de vos restaurants, parfois dans vos rencontres avec votre père? Comment s'est pris la décision? Puis est-ce qu'il y a des risques à se présenter comme ça chaque jour dans les réseaux sociaux?
Définitivement. Comment on a pris cette décision-là? Je me rappelle quand on a racheté notre père en 2015-2016, quand on est rentré dans l'actionnariat, on s'est dit comment on va être perçu? T'sais, l'image de marque de Salvatore à ce moment-là, le slogan était « moins cher et fier de l'être ». Et notre père vraiment là, construit l'entreprise autour de cette image de marque-là, qui était une pizza très abordable là, dans le marché, qui... T'sais, puis c'est super tout ça, mais il était reconnu vraiment pour les bas prix, puis c'était toujours d'essayer d'avoir le meilleur prix sur le marché. Puis on se dit, est-ce qu'on veut vraiment être reconnu parce que nos prix sont les moins chers, ou on veut être reconnu parce que nos produits sont bons, parce qu'on est dynamique, parce qu'on s'implique dans la société? Puis là, on s'est mis à comparer plusieurs grandes entreprises, pourquoi eux sont reconnus. Patagonia est reconnu pour son implication, notamment au niveau de l'environnement. Starbucks est reconnu le statut social que les gens ont l'impression d'avoir lorsqu'ils consomment du Starbucks, mais donnant les retours, les bas prix. On s'est dit, nous, pourquoi on veut être reconnu? Puis on s'est dit, on veut être reconnu parce qu'on est moins cher et fier de l'être. Fait qu'à ce moment-là, on a mis le slogan de côté. Puis on s'est dit, on veut être moins accessible puis s'impliquer dans la communauté. Puis là, on s'est dit, on prend un porte-parole, comment on fonctionne? Et moi, je trouvais à ce moment-là qu'on avait une belle différence avec les multinationales parce que nos compétiteurs, c'est de tout horizon. On a autant des pizzerias locales, des régionales, que des multinationales comme Pizza, Domino's, Pizza Pizza, qui investissent des millions chaque année dans nos marchés en publicité. On s'est dit, c'est quoi notre différence à nous? Comment on peut battre ces gros géants-là chez nous? Selon moi, notre grande différence, c'est qu'on était une entreprise familiale d'ici. Puis de mettre ça de l'avant, je pense que c'était bon parce que, tu sais, avec la COVID, le acheter local est devenu très populaire, mais c'était une tendance qu'on voyait quand même avant qu'elle était présente. Fait que je pense que c'est bon que les gens sachent que lorsqu'ils commandent chez Pizza Salvatore, c'est une entreprise familiale, c'est des franchisés locaux, puis c'est l'implication qui est redonnée dans les communautés de leur secteur. Fait que c'est ça qu'on voulait mettre de l'avant. Donc, on s'est mis un peu, on est apparu dans certaines publicités télé, sur les réseaux sociaux, on a commencé à être plus présent. Donc, c'est ça. Les réseaux sociaux ont été une grande partie de la stratégie de croissance de Pizza Salvatore en termes de notoriété, de reconnaissance de la part de la clientèle. Et à m'amener au Québec, on est 8,3 millions, qu'on est rendu. Il y a une saturation que tu peux avoir en termes d'exposure et Salvatore générait des millions d'impressions par semaine. Là, je me dis, OK, ben là, les gens qui vont avoir Salvatore voient Salvatore. Donc, comment on peut générer plus d'impressions, apporter peut-être quelque chose d'autre? J'ai dit, bon, on pourrait partir des comptes, les dessous de l'entreprise. On voyait beaucoup des entrepreneurs mettre leur quotidien de l'avant sur les réseaux sociaux, beaucoup aux États-Unis notamment. Donc, on s'est dit, ah, peut-être que ça peut intéresser les gens. Donc, c'est à ce moment-là, ça fait environ 2 ans qu'on est plus présent à parler des dessous de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Puis vraiment, les gens, surtout les jeunes, s'intéressent beaucoup aux dessous de l'entrepreneuriat. Donc, ça nous permet de connecter avec les gens, mais aussi de connecter avec la clientèle, d'aller chercher le pouls. Fait que nous, on trouve que c'est très pertinent à ce moment-là.
Bien, ça l'a été, si on regarde les résultats, ça a été extrêmement pertinent. Est-ce que vous vous êtes posé des questions à savoir, bon, y a-t-il des dangers de surexposition? Y a-t-il des sujets sur lesquels faudrait peut-être éviter le sujet politique? C'est jamais bon quand on est une entreprise, là. T'sais, le thinking derrière tout ça, vous l'aviez tout mis en place au départ ou au fur et à mesure, on se disait, ah, ben, tu vois, on était là, on n'aurait pas dû aller là?
C'est ça s'est fait au fur et à mesure. Peut-être qu'on aurait dû faire avant. Mon frère Guillaume s'est prononcé sur l'argent public. Puis, tu sais, l'opinion de Guillaume n'est pas l'opinion des 5 frères et sœurs, n'est pas l'opinion des centaines de franchisés et encore moins l'opinion des 3 600 membres de l'équipe dans les restaurants. Donc, c'est comme si l'opinion de quelqu'un devenait l'opinion de l'entreprise en étant présent sur les réseaux sociaux. Fait qu'on a un peu appris à la dure que faut jamais parler de sujets comme ça. Puis, tu sais, nous, on est en affaires. Pizza, c'est rassembleur, c'est festif. C'est pas à nous d'ouvrir des débats politiques. C'est pas à nous d'alimenter des débats politiques. Donc, on l'a appris en s'en allant, je dirais.
Oui. Puis est-ce que, bon, on parlait de surexposition. Est-ce que vous ressentiez peut-être un danger à la surexposition? T'sais, on voit trop d'Élisabeth Abatiello, on voit trop le père Abatiello. Moi, mon candidat préféré, là, quand je regarde les vidéos, c'est ton père. Il me fait rire, il parle pas, puis il me fait rire. Il fait juste regarder.
Ah ouais?
Je regarderai tout le temps ses vidéos. Il devrait avoir un genre de 24 heures sur 24, 7 sur 7 avec M. Salvatore, M. Abatiello. Mais je pense pas qu'il va l'embarquer là-dedans.
Ouais.
Mais la surexposition, les commentaires négatifs, vous gérez ça comment?
Bien, la surexposition, je pense que oui, ça peut être quelque chose. Par contre, l'arrivée de TikTok sur les réseaux sociaux est venue changer les méthodes de consommation des réseaux sociaux, mais aussi les grandes entreprises, à voir Meta, Facebook et Instagram, ont changé leur mode de comment ils exposent du contenu à leurs consommateurs. Donc maintenant, c'est les algorithmes qui décident. T'as beau être un compte, avoir 6 abonnés, tu peux faire une vidéo qui demain matin va avoir 1 million de vues. Et t'as beau avoir 1 million d'abonnés, demain matin, tu peux faire une vidéo qui a 6 vues. Et pourquoi? C'est parce que les abonnés, ça n'a plus vraiment d'importance. C'est l'algorithme de la plateforme de te pousser une vidéo qui est susceptible de t'intéresser. Donc, mettons qu'ils trouvent ça cocasse de voir mon père. Ben, l'algorithme le sait parce que tu passes plus de temps que la moyenne sur le vidéo, tu as peut-être interagi avec le vidéo, tu as peut-être recherché son nom quelque part. Donc, l'algorithme te pousse des vidéos de mon père. Puis c'est ça que je me disais, avoir 5 frères et sœurs, on a tous des responsabilités différentes au sein de l'entreprise, que ce soit mon frère Frédéric à la construction, Brayonnement, qui partage un peu aussi ma vie de famille. Clairement, les gens qui s'intéressent à Frédéric s'intéressent sûrement pas à moi et vice-versa. C'est vraiment différent. Sébastien qui est aux opérations, Guillaume qui est au développement, Katharina qui est aux réseaux sociaux. Donc, ça sème un peu des choses différentes. Fait qu'on fait un peu confiance aux algorithmes, mais c'est sûr qu'on regarde de près les statistiques. À voir, est-ce que créer plus du contenu à ma visibilité ou plus de contenu, moins de visibilité parce que, comme tu le dis, il y a une surexposition. Position. Avec les médias sociaux, c'est l'inconstance. Donc, il faut rester à l'affût de qu'est-ce que les consommateurs veulent voir, qu'est-ce qui est intéressant, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il n'y en a pas assez. Donc, on est toujours en veille, si je peux dire.
Puis, donc, c'est ça, vous êtes en veille. Puis, donc, les messages sont regardés. Chaque fois qu'il y a un message qui est envoyé sur vos capsules, ben vous regardez les messages, le contenu de ces messages-là. Puis, parce que souvent, ce qui est compliqué pour une entreprise, c'est de gérer les commentaires, tu sais. Puis, les réseaux sociaux, moi, je trouve ça merveilleux. Le problème étant que parfois, il y en a qui commentent dans l'anonymat et c'est des gens qui n'ont rien d'autre à faire que d'être méchants sur les réseaux sociaux. Fait que ça, nécessairement, quand on est une entreprise qui agit puis qui fait du marketing énormément sur les réseaux sociaux, pas le choix d'être à l'affût de ça, là.
Oui, c'est sûr qu'on est à l'affût. Puis l'aspect numéro un pour nous des réseaux sociaux, c'est connecter avec la clientèle. Donc, tu sais, des commentaires négatifs, on en voit des fois, puis on le sait, mettons, je vais donner un exemple. Le soir de l'Halloween, on a fait une promotion alors que c'est une soirée extrêmement achalandée. Mais on va avoir beaucoup de commentaires sur les délais de livraison sont longs, tout ça. On a une équipe et on se fait un devoir de répondre à chacun des commentaires privés. Hey, on est vraiment désolé de la situation. Peux-tu nous donner plus d'informations pour qu'on fasse un suivi avec le restaurant, mais aussi pour qu'on te dédommage? Donc, on prend vraiment l'air négatif comme un outil de s'améliorer. On fait un suivi avec les restaurants, on dédommage le client. Donc, pour nous, c'est ça. Puis, tu sais, je pense à, mettons, Crèmerie chez Mamie, qui est un concept de crème glacée qu'on a lancé l'été dernier pour sa première saison. On a ouvert 5 sites l'année passée. On a une dizaine qui arrive à l'été 2026. C'est un concept qui a été fait de A à Z sur, tu sais, la clientèle était pas la clientèle.
Élisabeth, je pense qu'on va faire.
Clientèle, mais les gens sur les réseaux sociaux étaient très investis à décider des troubles.
Ouais, je pense qu'on va faire une courte pause parce que je vois que le Zoom est en train d'en arracher pas pire. Donc, je répète aux auditeurs, ce soir, on a le plaisir de passer la soirée avec Élisabeth Abbatiello, qui est copropriétaire des Pizzas Salvatore. On fait une courte pause et on revient tout de suite après.
Marceau, le soir. L'application Boulevard 102.1. Le couteau suisse de ton téléphone. Météo, information, circulation, entrevue, podcast, meilleur rock. Manque juste les virements Interac, puis c'est la seule application dont t'aurais besoin.
Moi, je vous dis ça, c'est en toute amitié.
L'app Boulevard 102.1.
Du 6 au 15 février, c'est le Carnaval de Québec en collaboration avec Loto-Québec et vous pouvez le vivre autrement. Assistez au défilé de nuit confortablement assis dans nos estrades réservées. Chantez à tue-tête en zone avant-scène de la scène Loto-Québec, vivez les ateliers de sculpture sur glace présentés par Banque Scotia et dansez en mode country au manège militaire Voltigeur de Québec en collaboration avec le Festival Western de Saint-Tite. Les places sont limitées. Réservées au carnaval.qc.ca. En janvier, ne manquez pas la vente annuelle d'OptiBoutique. Jusqu'à 70% de réduction sur toutes les montures en boutique. Venez découvrir nos collections exclusives au 1026 Avenue Cartier. Visitez optiboutique.com pour tous les détails. Votre regard est unique, nos montures aussi.
Le bonheur, c'est pas compliqué. Chez Cora Déjeuner et Dîner, le bonheur, tu l'as pour seulement 12 $. Une sélection de 5 plats à un prix qui fait du bien. Puis tu repars le ventre plein puis le cœur léger. Le bonheur à 12 $, c'est en salle à manger pour un temps limité, seulement chez Cora.
T'as un glow incroyable! C'est quoi ton secret?
C'est la Muse Clinique. L'équipe a une approche globale et humaine. Soins du visage, masso, injections, épilation. On dirait un spa avec une équipe d'experts.
La Muse, votre nouveau départ bien-être. Lamuseclinique.com.
Chez Logibourg, la qualité ne se mesure pas seulement en mètres carrés. Découvrez nos immeubles où chaque espace est pensé pour votre confort. Des logements spacieux, mais surtout un service humain, réactif et à l'écoute de vos besoins. Parce que chez Logibourg, ce qui compte, c'est votre bien-être. Logibourg.com.
Cet hiver, offrez-vous une pause magique à l'hôtel Sakakomi à Saint-Alexis-des-Monts. Traîneau à chiens, ski de fond, raquettes, spa nordique, nature grandiose, vue sur le lac et ambiance chaleureuse. La féerie de l'hiver commence ici, à l'hôtel Sakakomi.
Vos pieds vous supportent chaque jour, prenez-en soin. Vous souhaitez vous libérer de cette tâche devenue exigeante et améliorer l'apparence de vos pieds dans un moment de détente? Pour une évaluation de la prévention, une hydratation et des conseils personnalisés, piedbonheur.com. Des soins podologiques adaptés à vos besoins avec expertise et douceur.
Imaginez un an complet de montagnes russes, de carrousel et de grandes roues à volonté. C'est ça l'abonnement annuel du Mégaparc. Plus de 15 attractions amusantes pour un an à seulement 149,99. Votre abonnement vous attend au mega-parc.com.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Pour vos projets de construction ou de rénovation, pensez Léopold et Océania. Spécialistes en salle de bain, plomberie, couvre-plancher et peinture. Nous avons tout pour transformer votre espace. Découvrez nos grandes marques comme Océania. L'art du bain fait ici. LéopoldBouchard.com.
Vous vivez de la colère? Posez des gestes que vous regrettez? Vous n'êtes pas seul. Le Centre Ixéco accompagne les hommes à modifier leur comportement violent en contexte conjugal et à développer de saines relations. Informez-vous, faites le premier pas. Centre Ixéco.
Découvrez le tout nouveau Tiguan 2026 chez Desjardins Volkswagen. Nouvelle génération, design repensé, puissance accrue et confort haut de gamme. Nous sommes une des seules concessions du Québec à avoir tous les modèles en inventaire pour livraison immédiate. Desjardins Volkswagen, performance, prestige et plaisir de conduire.
Depuis que mes parents ont enrayé chez Calido, l'idée que mes études pourraient coûter un bras, ça les empêche pas de dormir. Moi, dormir, c'est pas mon fort. Ben, je vais devenir chercheuse et trouver un remède contre les siestes. Merci Calido, l'épargne études qui ont les plus.
Dans les Etchemins, on a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'hiver. Des sentiers de rando et de motoneige, des endroits pour glisser, des microbrasseries pour vous réchauffer et une tonne d'activités gratuites pour décrocher à petit prix. tourisme-etchemin.qc.ca.
Ce moment de détente vous est gracieusement offert par Voyage Thomasin Saint-Hilaire. Notre équipe est disponible pour donner vie à vos plus beaux projets de voyage. Voyage Thomasin Saint-Hilaire, des souvenirs qui comptent vraiment.
Ce jeudi 15 janvier, découvre ton futur avec Groupe LD, leader québécois en outillage et équipement industriel avec 7 succursales au Québec. De 7 à 19 heures, participe à notre grande journée d'embauche. Travailleurs en entrepôt et vendeurs internes recherchés. Pas de CV, pas d'attente, juste toi, ton énergie et quelques minutes pour rencontrer notre équipe. Des conditions ultra avantageuses, un environnement dynamique et plus. Une rencontre, un nouveau départ pour ta carrière. Groupe LD t'attend le 15 janvier au 1515 boulevard Saint-Jean-Baptiste, coin Amel.
Les sols contaminés, on va s'en occuper.
Regener, votre partenaire en solutions environnementales.
Chez Uniprix, vous trouverez des produits qui simplifient votre quotidien et vous font économiser. Jusqu'au 21 janvier, profitez des rabais sur une foule de produits de nos marques privées. Des essentiels de tous les jours, des soins, des produits pour la maison, des gâteries. Les marques Option Plus, Nochico, Kit et Savvy sont d'une qualité exceptionnelle à bas prix. Magasinez chez Uniprix et économisez avec nos options gagnantes. Envie d'économiser encore plus? Procurez-vous notre livret de coupons en succursale. Quantité limitée, succursale participante, détails au uniprix.com.
Tu savais que le secteur de la construction embauche continuellement? Le DEP en charpenterie-menuiserie du CFP de Lévis te prépare un métier en forte demande. La formation est offerte gratuitement à Laurier Station et ça commence fin janvier. Inscris-toi sur taformation.ca.
En janvier, pour se réchauffer, un seul endroit pour déguster la meilleure poutine à Québec, et c'est dans vos fromageries Victoria. Avec nos 5 choix de sauce, nos frites fraîches et notre fromage en grains 100% lait provenant des fermes d'ici, nous en avons pour tous les goûts. Fromagerie Victoria, familiale depuis 75 ans.
Que vous soyez seul ou en famille, Logis Expert a un logement pour vous. Logis Expert, c'est plus de 4000 logements à Québec et Lévis. Des options pour tous les goûts et les budgets. Trouvez le vôtre dès maintenant sur logisexpert.com.
Boulevard 102.1, 100% parlé en semaine, avec les meilleures émissions d'actualité à Québec. Leclerc Communication, le radiodiffuseur numéro 1 à Québec. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Elisabeth Abbatiello est avec nous ce soir. Elisabeth Abbatiello, elle est copropriétaire des Pizza Salvatore. Vous en avez combien, total, avec les franchisés de Pizza Salvatore à grandeur du Québec?
Les franchisés Salvatore à la grandeur du Québec, on doit être rendu peut-être à 115. Donc, quand même, oui.
115, c'est incroyable. Puis est-ce que vous avez des aspirations vers l'Ouest canadien? Est-ce que vous voulez rentrer aux États-Unis un jour? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez?
On y a pensé il y a quelques années. Le Québec, pour nous, là, s'en vient pas mal saturé. Donc, c'est des discussions qu'on a eues non seulement avec la famille, mais avec les membres de l'équipe. Donc, on a ouvert là, dans 3 autres provinces canadiennes, à savoir Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario. Par contre, c'est vraiment pas les mêmes résultats qu'au Québec. On sait que pour avoir du succès, il faut développer l'habitude de consommation des gens, tout ça. La culture est très différente. C'est une culture très, très multiculturelle, surtout en Ontario. C'est très différent. Donc, on s'est dit, bon, OK, est-ce qu'on fait de l'expansion un peu plus, de manière beaucoup plus ralentie parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne dans les marchés anglophones, ou on continue de développer le Québec sous d'autres bannières? Donc, c'est la décision qu'on a prise environ 2 ans et demi. C'est à ce moment-là qu'on a acheté la chaîne Topla, qui est une chaîne de Québec qui était détenue là, par une entreprise familiale, le groupe Dufresne. Et ensuite de ça, là, on a procédé à plusieurs acquisitions. Jack Lecoq, on a aussi parti notre propre concept de crèmerie, crèmerie chez Mamie. Et on a acheté dernièrement là, la chaîne Le Frier, qui est une chaîne à déjeuner de Montréal. Donc, on s'est dit, on va focusser sur des entreprises qu'on aime vraiment et les développer un peu partout au Québec.
Moi, je trouve ça intéressant. Puis au niveau de trouver des employés de qualité, est-ce que c'est compliqué en 2026?
Avant la COVID, l'emploi était quand même très difficile. La COVID est venue accentuer ça un petit peu, je dirais. Mais là, on semble avoir un équilibre. Puis nous, dans les restaurants, c'est beaucoup des jeunes, que c'est leur premier emploi, tout ça. Et le fait qu'on soit présent sur les réseaux sociaux, ben ça attire quand même cette clientèle-là. Ils voient des pizzaiolos qui lancent des pâtes à pizza. Tu sais, c'est quand même impressionnant à voir, c'est le fun. Puis les jeunes disent, hey, moi aussi, j'aimerais ça être comme Miko. Miko est un jeune équipier du restaurant Notre-Dame-des-Laurentides à Québec, qui est vraiment une star sur les réseaux sociaux, là, qui est quand même très connu, qui participe à des grands concours aussi. Donc, le fait qu'on soit présent sur les réseaux sociaux, ben ça fait qu'on est perçu par les jeunes comme une entreprise cool. Et une statistique que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'environ 40% des membres de l'équipe dans les restaurants sont des références de leurs amis. Donc, les gens aiment ça, travailler chez Salvatore, et ils amènent avec eux des amis. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est quand même fiers.
Puis, est-ce que vous avez dû vous adapter au fil du temps aux nouvelles générations? Moi, j'ai commencé dans la restauration. Ça devait être autour, c'est dans les années 90. Et j'ai travaillé pour des Italiens, j'ai travaillé pour des Grecs. Donc, j'ai appris à la dure dans la restauration. Mais c'était comme ça, la restauration à l'époque. On était très dur pendant les heures de travail, puis après le travail, ben on nous offrait des verres de vin, puis merci beaucoup pour la belle soirée et tout ça. Mais je me rends compte que si un jour mes enfants se ramassent dans la restauration, dans un restaurant où je travaillais dans les années 90, puis ils se font traiter de la même façon, il y aurait peut-être un peu de difficulté là, à se faire dire tout ce qu'on se faisait dire des années 90. Est-ce que c'est difficile de s'adapter aux nouvelles générations? Là, bon, ben là, c'est leur fête. Donc là, vu que c'est ma fête, je veux un congé aujourd'hui. Ce qu'on n'aurait pas pu dire des années 90, ça, c'est ta fête. Ah ouais, tu veux un congé? Ben, tu vas avoir ton T4, là. Tu vas avoir ta fin d'emploi.
Mais non, honnêtement, les jeunes là, sont très travaillants, puis on a vraiment des bons jeunes dans les entreprises, puis on se sent vraiment choyé. Puis je pense qu'en tant qu'employeur, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les jeunes aient une expérience de travail qui est positive, qui leur donne envie de travailler. Puis, tu sais, je peux comprendre peut-être dans le temps, nous, mes frères et sœurs, c'est des situations qu'on n'a pas vraiment vécues. Voilà. Je me rappelle, mon frère le plus vieux, il travaillait dans un restaurant qui était tout près de chez nous, qu'il fallait appeler, donc c'est pas un Salvatore. Et son employeur avait dit, ben, faut que tu te coupes les cheveux ici. Puis là, mon frère était quasiment revenu à la maison, puis il s'était coupé les cheveux, puis pour lui, ça le dérangeait bien gros. Puis maintenant, si tu dirais ça à un employé aujourd'hui, à un membre de l'équipe, ben, il dirait, ben non, j'y garde comme ça ou je m'en vais ailleurs. Je peux comprendre ça. Mais ça reste que les gestionnaires, c'est quand même des gestionnaires qui sont jeunes aussi chez Salvatore. Souvent, on va parler environ 35-40 ans. Donc, ils comprennent cette réalité-là. Mais quand les jeunes ont du fun au travail, je pense vraiment là, qu'ils donnent des bons résultats aussi bons que les jeunes des autres générations précédentes.
Puis, c'est-tu des problématiques, les fameux cellulaires sur le lieu de travail? C'est-tu des trucs sur lesquels vous devez vous pencher constamment?
Non, c'est pas une problématique en tant que telle. Là, quand les personnes arrivent sur leur lieu de travail, parce que dans la restauration en général, mais chez Salvatore aussi, ben, le cellulaire est mis de côté, puis après ça, ils sont focus à faire leur travail. C'est quand même des hauts volumes de commandes pendant les heures achalandées, donc ils n'ont pas vraiment le temps de... regarder ça. Là,
vous avez plusieurs restaurants de différentes chaînes. Comment on fait pour essayer de conserver la meilleure qualité possible, le meilleur produit possible, peu importe si on va manger dans un de vos restaurants en Beauce versus un de vos restaurants à Montréal ou en périphérie de Montréal, périphérie de Québec? Comment on fait pour avoir la même qualité, pour que ça goûte la même affaire? Ça doit être assez complexe parfois, là.
Oui, ben au niveau du goût, c'est sûr qu'étant une chaîne, ben les franchisés s'approvisionnent tous au même endroit des mêmes fournisseurs qui sont approuvés par l'équipe d'approvisionnement au centre de service. Donc, tout le monde a le même pepperoni, tout le monde a la même sauce à pizza, tout le monde a les mêmes, tu sais, même que ce soit les légumes de saison, sont tous pris à la même place, tout ça. Puis c'est sûr que les recettes sont standardisées. Par contre, chez Salvatore, la pâte à pizza est faite sur place à la main chaque matin. Donc, c'est des manipulations humaines. On pourrait choisir d'avoir des machines ou de recevoir la pâte à pizza congelée comme la compétition, mais pour nous, c'est super important de faire la pâte à pizza sur place parce que vraiment la fraîcheur, la densité de la pâte, ça se ressent lorsque ça a été congelé ou ça a été fait par une machine, ça va être beaucoup plus dense. Donc, pour nous, c'est super important, mais ça reste la manipulation humaine, comme la sauce à spaghetti de ma mère, des fois elle est plus sucrée, des fois elle est un peu moins sucrée, tu sais, ça change. Mais quand il y a une manipulation humaine, ben c'est un risque ou un avantage qu'on veut se donner. Mais il y a beaucoup, beaucoup de suivi au niveau des opérations qui sont faites dans les différentes franchises pour s'assurer d'une uniformité et d'un respect aussi des standards du franchiseur. Donc, que ce soit au niveau que tous les équipiers aient des uniformes, les normes de salubrité hygiène, les normes de préparation des aliments. Donc, vraiment, là, c'est des suivis super serrés de notre part du franchiseur. Puis, évidemment, il y a toutes les instances gouvernementales aussi qui font des suivis. On pense notamment à la MAPAC par rapport aux aliments. Donc, c'est quand même très, très encadré.
Puis, au niveau des gens qui veulent acheter une franchise Salvatore, vous devez faire un tri, j'imagine, parce que, comme tu l'as dit, vous êtes énormément présent sur les réseaux sociaux. Les gens se sentent proches de vous. Les gens ont l'impression de vous connaître. C'est une belle entreprise, c'est dynamique. Bien, j'aimerais ça acheter une franchise. Vous devez avoir beaucoup de demandes.
Oui, quand même, honnêtement... On est choyé pour ça. Salvatore s'en vient pas mal s'assurer, donc on prend plus de franchisés vraiment. On prend plus de franchisés. Puis on a beaucoup de multi-franchisés au sein de l'entreprise. Puis ça, pour nous, c'est une grande fierté. C'est quelqu'un qui est rentré, qui s'est acheté un pizza Salvatore il y a 5-6 ans. Après ça, il en a acheté un deuxième. Et là, dans son secteur, il peut, mettons, à Trois-Rivières, j'ai un exemple, notre franchisé Denis Cadorette. Bon, ben, il y a deux Salvatore à Trois-Rivières. Ben, là, il voulait ouvrir d'autres choses, mais là, pour lui, ça devenait compliqué de s'éloigner. Donc, il va ouvrir une crèmerie chez mamie, il va ouvrir un top là. Donc, on a beaucoup de multi-franchisés au sein du réseau et plus de 50% de nos franchisés sont multi-franchisés. Donc, c'est sûr que nous, on donne la priorité aux franchisés actuels. Mais lorsqu'on a annoncé, par exemple, le concept de crèmerie chez mamie, on l'a annoncé en octobre 2024 pour ouverture été 2025. Et lorsqu'on a fait l'annonce sur les réseaux sociaux, c'est sûr que les crèmeries, c'est des concepts qui sont moins dispendieux, qui sont ouverts 6 mois par année. C'est qu'il y a quand même ces avantages pour des franchisés opérateurs. Ben, on a reçu 600 demandes de franchise en l'espace de 2 semaines, alors qu'il y a de la place pour environ 100 de crèmeries au Québec. Donc, on a vraiment le choix comme ça. Ça a été la même chose pour Jack Lecoq lorsqu'on a acheté cette chaîne de Montréal. On a reçu vraiment beaucoup de demandes de franchise versus ce qu'on est capable de produire à l'interne ou le nombre de succursales qu'on est capable d'implanter au Québec. Donc, c'est sûr qu'on fait un tri. Puis l'aspect numéro un, bien, c'est la gestion. Pour nous, c'est très important parce que qu'est-ce qui fait en sorte que les clients sont bien servis? C'est que les équipiers soient heureux d'être là. Et qui peut rendre les équipiers heureux, qui peut favoriser une ambiance de travail qui est le fun à travailler? Bien, c'est les franchisés. Donc, on cherche vraiment des franchisés qui ont des bonnes expériences en gestion de personnel.
Je vais te confier quelque chose. Ça vient de mon plus jeune a 10 ans, le petit Isaac. Puis dans sa classe, okay. Il devait parler des modèles masculins, modèles féminins. Et il y a une jeune fille qui a dit, moi, je veux être Elisabeth Abatiello. C'est pas des blagues. Et mon gars m'a nommé comme 2-3 personnes qui avaient retenu. Puis lui, il avait retenu Elisabeth Abatiello parce que c'est une famille qui vient de la Beauce, les Abatiello. Donc, il m'a demandé c'était qui Elisabeth Abatiello. Puis là, j'ai parlé un peu de ton histoire, de ce que je connaissais. Je connaissais pas tout de toi. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il y a des jeunes filles qui te prennent comme modèle. Est-ce à savoir si ces jeunes filles-là vont devenir des femmes d'affaires un jour, ça, on ne le sait pas. Mais je trouve ça intéressant. Mais en même temps, tu dois déjà en avoir entendu parler que tu commences à être un modèle féminin de femme d'affaires qui est très en vue. Puis des gens qui disent « OK, ben moi, j'aimerais être comme elle. »
Ben, je trouve ça super flatteur. Puis je trouve ça le fun parce que je pense que qu'est-ce qui est mis sur les réseaux sociaux, oui, c'est l'entrepreneuriat. Puis c'est beaucoup de travail, mais aussi, je pense que, comme je l'ai mentionné au début de notre rencontre, moi, ce qui m'inspire, c'est ceux qui réussissent à réussir autant leur vie professionnelle que personnelle en même temps. Puis c'est ça, moi, j'avais pas de modèle quand j'étais enceinte de ma première fille. J'avais même pas pensé à embaucher quelqu'un pour me remplacer, tu sais, pour faire des heures, pour me déloader, comme on peut le dire, là, pour enlever à ma charge. Parce que moi, j'avais vu ma mère qui était à la maison avec nous quand on était jeunes. J'avais mes belles-sœurs que je voyais qui étaient, tu sais, en congé de maternité, qui étaient à la maison, tu sais, qui s'assuraient de la routine familiale, puis tu sais, tout ça. Mais moi, j'avais vraiment pas pensé à ça. Puis quand ma première fille est née, ben moi, je faisais 50 heures par semaine au lieu de 70-80 avec un nouveau-né. C'est une charge qui est énorme. Ça m'a permis à ma deuxième fille d'avoir une meilleure stratégie, de dire « OK, là, je suis enceinte, il faut que j'embauche quelqu'un, le temps de le former, tout ça. » Puis, tu sais, ça m'a enlevé, là, je faisais 20-30 heures par semaine avec ma deuxième fille. Puis, à ma troisième fille, là, tu sais, ça allait mieux encore. Je faisais juste, j'étais au bureau 2 fois par semaine. Ma mère, j'ai la chance d'avoir ma mère qui gardait ma fille. Donc, puis c'est ça. Puis ma sœur, elle, ça a été à son 4e enfant qu'elle a eu un congé quasi complet. Puis j'ai dit, hey, wow, c'est cool, hein, mais c'est dommage triste que ça nous ait pris 4 enfants pour avoir un temps avec, tu sais, s'occuper d'un nouveau-né, c'est déjà une charge qui est immense. En plus, travailler, gérer une entreprise, c'est vraiment difficile. Fait que je me dis, si des jeunes filles comme celle dans la classe d'Isaac voient que c'est possible, mais surtout aussi pour leur faire prendre conscience qu'un et l'autre peuvent cohabiter, mais qu'il faut s'organiser, ben, je pense que c'est super le fun.
Ouais, c'est important d'avoir des modèles. Est-ce que c'est dur pour toi? Parce que bon, t'as pas choisi d'être actrice, t'as pas choisi d'être une chanteuse. C'est le modèle qu'on avait là, quand on était jeune. On regardait ces gens-là, puis ils étaient hyper populaires. Là, avec l'avènement des réseaux sociaux, vous êtes devenus des personnages. Vous rentrez dans le cellulaire des gens, vous rentrez dans les ordinateurs des gens, on vous voit. Ça a-tu été flagrant, toi, ton arrivée sur les réseaux sociaux versus « OK, hey, salut Elisabeth », de dire salut à des gens que tu connaissais pas, ça devait être un peu weird au départ. Comment tu as géré ça?
Bien, c'est sûr qu'à la base, autant pour mes frères, ma sœur, même mon père, des fois, qui se fait arrêter dans la rue pour prendre des photos avec lui. Puis, à la base, on est des entrepreneurs, on n'est pas des influenceurs, des créateurs de contenu. Puis, on travaille beaucoup avec des créateurs de contenu pour nos bannières. Donc, on a un grand respect pour ce qu'ils font. Puis, je pense que vraiment, c'est vraiment cool que la création de contenu soit aussi accessible à tous et chacun qui s'intéresse à ça versus avant, comme tu dis, les acteurs, c'était très élitiste, si je peux dire. Maintenant, c'est accessible à tous, donc ceux qui veulent le faire. Mais c'est sûr qu'on n'a jamais cherché ça un peu, si je peux dire, mais ça nous fait toujours super plaisir quand les gens nous abordent, puis de voir qu'ils consomment non seulement notre contenu, mais nos produits, puis d'avoir le feedback direct sur les réseaux sociaux. Oui, il peut y avoir des commentaires négatifs, mais 99,9% du temps, c'est positif ou c'est quelque chose qui nous aide à nous améliorer. Donc, on a vraiment... on aime beaucoup connecter avec les gens via les réseaux sociaux. Puis lorsque ça se passe là, dans la vraie vie, si on peut dire, ben ça nous fait toujours super plaisir.
Puis il n'y a pas des fois où tu te poses des questions à savoir, bon, là, il faudrait que je sorte aller à l'épicerie, puis là...
Chaque jour de même. Moi, je suis une fille qui est hyper... je vais pas dire simple, mais tu sais, qui sort en jogging tout le temps, ouais. Jamais maquillée pratiquement, tout ça. Puis, tu sais, moi, ça me dérange pas, je suis bien comme ça, mais je me dis, mon Dieu, le monde, ils doivent dire, oui, mais non, mais tout croche, elle, mais tu sais, ouais. c'est moi, là, je sors comme ça, mais.
Si je peux te confier, tes histoires seront jamais pires que la mienne, je me fais pas souvent reconnaître parce que je travaille à la radio, mais j'étais en tournoi de hockey, puis dans la douche, dans la chambre de hockey, on n'a plus d'eau chaude. On n'a plus d'eau chaude, plus rien qui marche. Fait que je me dis, hey, je vais aller prendre ma douche dans l'autre chambre, puis les gars d'une autre partie, ils commençaient à rentrer avec le poche. Je dis, hey, les gars, je peux-tu emprunter votre douche dans notre chambre? Il n'y a plus d'eau chaude. Fait que là, les gars disent, oh, oui, va emprunter ça. Puis je suis en train de prendre ma douche. Là, on s'entend que quand on prend notre douche, on est nu comme un verre, puis il y a un gars qui rentre, il ouvre la porte de la toilette, puis la douche est là. Il nous dit, t'es-tu Marceau de la radio, toi? J'étais flambaille.
Ça doit être gênant. Ouais,
ouais c'est ça. Ben, j'ai dit non, c'était un autre.
Mais parce que ta voix est très reconnaissable. Là,
ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Là, cette fois-là, j'avais eu un petit peu plus de difficultés à me faire reconnaître. Mais c'est ça. Comme vous êtes très visible avec l'avènement des réseaux sociaux, je me disais que ça devait être un peu plus difficile pour vous autres de sortir et aller faire l'épicerie en paix, en pyjama, comme certains le font.
Même si je me fais reconnaître, je vais en pyjama. Moi. Ouais.
Vos conjoints n'ont pas choisi votre métier, n'ont pas choisi votre visibilité, font partie de vos capsules. Ça a-tu été des discussions, ça?
Mais c'est sûr que nos conjoints-conjointes, pour la plupart, c'est des relations de longue durée qui étaient avec nous depuis qu'on a travaillé depuis toujours, tu sais, depuis nos débuts dans la restauration. Puis je pense que, je vais pas dire le plus difficile, mais le plus gros clash, c'est d'avoir comme conjoint-conjointe quelqu'un qui travaille beaucoup d'heures dans sa semaine puis que sa disponibilité est moins présente. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça l'élément numéro un, mais ça n'a pas été du jour au lendemain, ça a toujours été comme ça dans le début des relations. Donc, c'est sûr que ça prend des conjoints et conjointes qui sont très conciliants puis qui sont prêts à pallier à ça. T'sais, je pense notamment à mes frères. Maintenant, l'équilibre est mieux. Je pense qu'on est quand même mieux depuis les dernières années. Mais au début, c'est du 90 heures par semaine. On en a fait beaucoup. Là. Puis avec des jeunes enfants à s'occuper au travers, ben c'est sûr que le conjoint et conjointe prend une place qui est peut-être plus prédominante. Ceci étant dit, ça n'a jamais été notre aspiration d'être enfermé au bureau de 6 heures le matin à 11 heures le soir. T'sais, on a toujours eu l'aspiration d'avoir j'aime pas le mot équilibre, là, mais d'avoir une harmonie entre la vie familiale et la vie professionnelle qui est plaisante pour tous, incluant nos conjoints-conjointes, mais aussi nos enfants. T'sais, on est une famille qui est avec des valeurs familiales qui est très forte, donc on a mis des enfants au monde pour s'en occuper, puis on aime ça passer des moments avec eux. Donc, ça n'a jamais été notre aspiration à travailler 90, même t'sais, du 100 heures par semaine. C'est déjà arrivé. Fait que ça, les conjoints-conjointes étaient conscients de ça. Et par rapport à les réseaux sociaux, ben c'est sûr qu'on respecte les limites de tous et chacun, puis c'est jamais de mauvais goût, tout ça, puis nos conjoints-conjointes comprennent ça, puis on est très... On communique quand même bien, là, donc si quelqu'un dit hey, je peux-tu te filmer, tu vas faire ça, puis ça ne me tente pas, ben il n'y a pas de problème, mais tu sais, je pense que c'est jamais fait de manière intrusive. Donc,
ça va quand même bien. Il se prête au jeu. Élisabeth, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je rappelle aux gens qu'on est avec Élisabeth Abbatiello, qui est copropriétaire des Pizzas Salvatore et d'énormément d'autres franchises de restaurants. Si tu avais un souhait pour les prochaines années, pour votre belle famille, les Pizzas Salvatore puis tous vos autres restaurants, ce serait quoi pour vous autres? Ce serait quoi ton souhait que tu as?
Ben, c'est sûr que je pense qu'on est excessivement chanceux d'avoir grandi dans une famille avec des valeurs familiales qui sont fortes. Puis ça s'est transmis là, à mes trois frères, ma sœur et moi. Puis on est très conscients de d'autres entreprises familiales que ça va moins bien. Fait que je pense que si on peut garder la même dynamique qu'actuellement, ça serait notre plus beau cadeau. Puis je pense que c'est comme ça qu'on a le plus de plaisir aussi.
Ben, je vous le souhaite, là. T'sais, moi, je ne vous connais pas personnellement. Je vous vois à travers les réseaux sociaux. Vous semblez vous amuser, puis vous semblez travailler extrêmement fort aussi. Donc, votre succès n'est pas étranger au fait que vous travaillez extrêmement fort. Puis, je vous souhaite la meilleure des business pour la suite. J'en suis pas inquiet. Surtout que, tu sais, bon, cette histoire-là des Pizzas Salvatore, c'est parti en Beauce. Puis, j'ai comme un.
Ben oui.
Mes enfants, c'est des Thibaussons. Donc, je suis très fier.
Mais t'es au début de la Beauce, toi, je pense. Hein?
oui. J'étais dans ce secteur-là. J'ai déménagé, mais mes petits gars, c'est des Beaucerons. Puis on est bien fiers des Beaucerons. Puis de ceux qui se partent des entreprises. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau en Beauce, mais il y a énormément de gens qui sont entrepreneurs. Je te souhaite de passer une belle soirée. Merci beaucoup pour ce fameux podcast de 60 minutes. Ça a été un plaisir de te rencontrer pour une première fois. Puis en espérant te reparler dans les prochains mois.
Merci beaucoup, Yann.
Nous, on se laisse. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. On se reparle demain à la même heure. Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Le vendredi 16 janvier, préparez vos cordes vocales parce que Boulevard 102 débarque au Centre Vidéotron pour un match des Remparts contre le Drakkar de Bécomo. Puis on fait pas ça à moitié. Les deux frères seront en prestation après le match. Nos animateurs trop énervés seront un peu partout. Et l'escouade Boulevard sera dans le hall pour vous mettre au défi et vous gâter. Écoutez Boulevard cette semaine pour décrocher vos billets quadruples. On se voit au Rempart le 16 janvier prochain à 19h. Boulevard 102 et les Remparts de Québec, fiers partenaires de vos sorties sportives.
Le Centre dentaire Charest est en pleine croissance. Vous êtes dentiste, hygiéniste dentaire ou assistant? Joignez-vous à une équipe dynamique et passionnée. Centre dentaire Charest, la clinique qui vous fera sourire. Visitez la section Nous recrutons sur centredentairecharest.com pour postuler.
C'est le retour des soupers à petit prix chez Normandin. Tous les jours dès 16h, pour seulement 11,95 $, savourez en salle à manger l'un des 6 repas incontournables de Normandin. Le combo pizza garnie avec frites, la salade César au poulet croustillant, le combo lasagne et salade, le wrap au poulet, le nouveau Burger Smash Barbecue et la poutine à la fondue chinoise. 6 choix au prix vraiment spécial de 11,95 $. Dès 16h, chez Normandin, on s'occupe du souper. Jusqu'au 15 février, détail en restaurant. Normandin, ça fait plaisir. L'hôtel Terrasse Dufresne, c'est convivial, chaleureux, accueillant. Sans parler de la Terrasse Dufresne, le Cachet, le Vieux-Québec, c'est tellement beau. Stationnement disponible sur place. Suivez-les sur Facebook ou Instagram. Pour réserver au meilleur prix, réservez dès maintenant sur terrassedufrein.com.
Chez Uniprix, vous trouverez des produits qui simplifient votre quotidien et vous font économiser. Jusqu'au 21 janvier, profitez des rabais sur une foule de produits de nos marques privées. Des essentiels de tous les jours, des soins, des produits pour la maison, des gâteries. Les marques Option Plus, Nochico, Kit et Savi sont d'une qualité exceptionnelle à bas prix. Magasinez chez Uniprix et économisez avec nos options gagnantes. Envie d'économiser encore plus? Procurez-vous notre livret de coupons en succursale. Quantité limitée, succursale participante, détail au uniprix.com.
Chez Volkswagen Saint-Nicolas, obtenez le Taos 2026 à un taux de location avantageux à partir de 2,99%. Et si vous êtes déjà propriétaire d'un Volkswagen, profitez d'une réduction de taux et recevez 2 ans d'entretien gratuit. On vous attend chez Volkswagen Saint-Nicolas.
Faites progresser votre carrière avec la formation continue du Cégep Garneau. Vous travaillez en informatique, en réseautique ou en cybersécurité? Découvrez la nouvelle certification collégiale en sécurité dans un environnement cloud. Cours de soir en ligne dès le 3 février. Inscrivez-vous sur Progresser avec un Z.ca.
Le mariage de vos rêves commence au Salon des mariés de Québec. Avec plus de 100 exposants à découvrir, traiteurs, musique, animation, décorations, robes, limousines, gâteaux, tout y est pour la réussite de votre mariage. Le Salon des mariés de Québec, les 17 et 18 janvier au Centre de foire de Québec.
Si vous prévoyez la construction d'une maison ou l'achat d'un condo neuf, l'électricité, la plomberie, la fondation, la charpente, le toit, le revêtement, les portes, les fenêtres, les planchers, les murs, la finition, tout ça, c'est important. Mais pas aussi important que de choisir un entrepreneur titulaire d'une licence de la RBQ et accrédité par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Ainsi, vous serez bien protégé. Et ça, c'est vraiment important.
Apprenez-en plus sur les protections offertes par le plan de garantie au rbq.gouv.qc.ca. Un message de la Régie du bâtiment du Québec.
Pensez à Léopold pour vos projets de construction ou de rénovation. Salle de bain, plomberie, couvre-plancher et peinture, ils ont tout pour transformer votre espace. Découvrez leurs grandes marques comme Zita, spécialiste en produits de salle de bain. Léopold, avenue Taniata, Lévis.
Boulevard. Chaque jour de la semaine, Denis Gravel et Yannick Marceau traitent des dossiers chauds du jour. Puis qui l'eût cru, ils pensent pas la même affaire.
Vous voyez flou? Pas besoin d'un miracle, juste de Scoop Vision. Apportez votre prescription, économisez et repartez parfois avec vos lunettes en une heure. Des montures de grande marque, des prix web et la qualité d'une vraie lunetterie. Scoop Vision, enfin clair, mais pour pas trop cher. ScoopVision.ca.
Imaginez un an complet de montagnes russes, de carrousel et de grandes roues à volonté. C'est ça l'abonnement annuel.
annuel du Mégaparc. Plus de 15 attractions amusantes pour un an à seulement 149,99 $. Votre abonnement vous attend au mega-parc.com.
Quand le suspense vous tient en haleine, quand chaque épisode compte, sur Max, c'est un max de séries, un max d'intrigues, un max d'action. Cet hiver, place aux enquêtes, aux émotions fortes et aux films incontournables. Max, la destination des grands rendez-vous télé. Max, vivez l'action. Abonnez-vous.
Ce jeudi 15 janvier, découvre ton futur avec Groupe LD, leader québécois en outillage et équipement industriel avec 7 succursales au Québec. De 7 à 19 heures, participe à notre grande journée d'embauche. Travailleurs en entrepôt et vendeurs internes recherchés. Pas de CV, pas d'attente, juste toi, ton énergie et quelques minutes pour rencontrer notre équipe. Des conditions ultra avantageuses, un environnement dynamique et plus. Une rencontre, un nouveau départ pour ta carrière. Groupe LD t'attend le 15 janvier au 1515 boulevard Saint-Jean-Baptiste, coin Hamel.
Hommes et femmes de 65 ans et plus, la recherche a besoin de vous maintenant. Cineas Health vous invite à participer à une étude clinique simple, sécuritaire et rémunérée. Plusieurs groupes disponibles au mois de janvier. Recevez jusqu'à 4 395 $ pour votre contribution. Rejoignez les Cineas Stars, une communauté de plus de 30 000 personnes. Contactez notre centre de recrutement au 1-866-262-7427 ou visitez gocineas.com.
Cineas Health. Pour un futur en santé.
Projet de construction ou de rénovation en vue, Armoire Lévis transforme vos idées en réalité et ce depuis plus de 45 ans. Cuisine, salle de bain ou rangement, nos armoires sur mesure allient style, fonctionnalité et qualité. Venez nous rencontrer.